considérerons les diverses phases que a vécu cette assemblée dans sa formation, dans sa vie, dans son développement et la souci dans son déclin. La parole nous en parle pour nous avertir, pour nous enseigner. Dans le livre des Actes, d'abord, au chapitre 18, verset 19. Mais pour l'intelligence du passage, disons depuis le verset 18, Paul ayant demeuré là encore assez longtemps, donc c'était à Corinthe, prit congé des frères et mis à la voile pour la Syrie, et avec lui Priscilla et Aquilas, après qu'il se fut fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu, et il arriva à Éphèse et les y laissa. Mais étant entré lui-même dans la synagogue, il discourut avec les Juifs. Mais lorsqu'ils le prièrent de demeurer plus longtemps avec eux, il n'y consentit pas, mais il prit congé d'eux, disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse par mer. Verset 24. « Et il vint à Éphèse un Juif nommé Apollos, alexandrin d'origine, homme éloquent et puissant dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Seigneur, et étant fervent d'esprit, il parlait et enseignait diligemment les choses qui concernaient Jésus, ne connaissant que le baptême de Jean. Et il se mit à parler avec hardiesse dans la synagogue. Et Aquilas et Priscilla, l'ayant entendu, le prirent et lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu. Et comme il se proposait de passer en Achaïe, les frères écrivirent aux disciples et les exhortèrent à le recevoir. Et quand il y fut arrivé, il contribua beaucoup par la grâce à l'avancement de ceux qui avaient cru, car il réfutait publiquement les Juifs avec une grande force, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Arrêtons-nous là pour considérer ces deux premières phases de l'assemblée à Éphèse. Et quelles sont les personnes que le Seigneur a utilisées pour former et pour permettre le développement de ce rassemblement à Éphèse? Il semble bien que l'apôtre Paul n'y est pas resté longtemps. Il entre dans la synagogue, il discourt avec les Juifs, et il n'accepte pas de rester plus longtemps avec eux. Donc, ce n'est pas directement par le ministère de Paul que cette assemblée à Éphèse a été formée. Quels sont les premiers éléments que Dieu a utilisés? Et ceci, je dirais, applicable pour ce rassemblement dans ce lieu-ci. Deux personnes, un couple, Aquilas et Priscilla. Cette Aquilas et Priscilla, nous les trouvons dans la parole à plusieurs reprises. Notons, pour le dire en passant, qu'ils y sont mentionnés six fois. Six fois, trois fois, c'est Aquilas et Priscilla, et trois fois, c'est Priscilla et Aquilas. Donc, toujours ensemble, trois fois, le mari est mentionné le premier, suivi par sa femme. Trois fois, c'est la femme qui est mentionnée en premier, suivie par son mari. Un équilibre parfait, toujours ensemble, et si je ne veux pas m'y arrêter, je ne fais que de le citer de mémoire. Quand c'est le mari qui est nommé en premier, comme par exemple au verset 24e, c'est un peu plus loin, c'est verset 26, et Aquilas et Priscilla, l'ayant entendu, le prirent et lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu. Il y a donc une nécessité que ce soit le mari qui prenne l'initiative, puisqu'il s'agit là de donner un enseignement, d'apporter quelque chose qui manquait encore à Apollos. À d'autres reprises, exemple verset 18, ils accompagnent Paul. Et il est noté Priscilla et Aquilas. dans cet accompagnement, dans les soins qui lui seront prodigués, dans l'aide qui lui sera apportée, et c'est l'épouse qui prend le premier rôle. Ainsi donc, parfaite harmonie et, je dirais, rôle réciproque dans les circonstances justes, et ainsi le témoignage peut être rendu et rendu fructueux. En effet, c'est Aquilas et Priscilla qui sont pendant bien quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois, qui sait, qui sont là à Éphèse. Et c'est par eux que l'Évangile pénètre. C'est par eux que le témoignage de la vérité de l'Évangile sera rendu probant. Parce qu'il y a une vie chrétienne, effective, qui démontre la réalité de l'Évangile. Je viens de dire, un couple uni et équilibré, dont chacun des deux conjoints a son rôle bien défini, l'un et l'autre collaborant ensemble et étant aide l'un pour l'autre, étant complémentaires l'un de l'autre. Qu'un couple est ainsi, un couple chrétien, n'y a-t-il pas quelque chose dans le voisinage qui sera réalisé, qui sera mis en évidence? Est-ce qu'on ne posera pas quelques questions? Mais ce ménage-là, cette maison-là, il y a une lumière qui rayonne, il y a un parfum qui en émane. Il y a quelque chose qui mérite quand même qu'on s'en approche, qu'on s'en inquiète. Qu'est-ce que c'est l'Évangile? Jésus-Christ, l'amour de Dieu, voilà ce qui produit un tel témoignage. Et il arrive Apollos, homme éloquent et puissant dans les Écritures. Alors, c'est une deuxième phase. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit trouvé vis-à-vis de certains contradicteurs. Peut-être que Aquilas et Priscilla, bien qu'ayant un témoignage sans faille, mais vis-à-vis de certains contradicteurs, certains discuteurs, peut-être qu'ils n'avaient pas la faculté de répondre, de rétorquer comme il fallait. Mais voilà l'homme qu'il faut, Apollos. Il arrive au moment voulu, il arrive à point nommé. Le terrain avait été préparé par le témoignage qui n'est pas mentionné spécialement, parce qu'il n'y avait pas d'éclat. Il n'y avait pas de spectacle, non, mais un témoignage régulier, un témoignage fondamental qui a préparé le terrain. Apollos arrive maintenant. S'il y a des contradicteurs, ils seront écartés inévitablement. Ils n'auront plus voix au chapitre, parce qu'il est puissant dans les Écritures, et comme il a été lu à la fin de ce paragraphe, il réfute publiquement les Juifs, avec une grande force, démontrant par les Écritures que Jésus est l'Éternel. Avec un tel don, un tel ministère, les disciples qui étaient encore liés, nous lisons, ils étaient encore liés aux Juifs, ils étaient encore dans la synagogue. Mais il fallait que le témoignage de l'Évangile soit prouvé, soit rendu percutant et fasse taire les contradicteurs. Il y a donc Apollos qui est venu. On pourrait peut-être penser, si on se situe dans cet environnement, voilà deux couples fervents, certes, qui aiment le Seigneur, mais qui n'ont pas les capacités d'un Apollos. Ah, bien voilà l'homme qu'il nous faut. Nous, on se retire et on laisse faire. Eh bien, non. Ils écoutent, ils reçoivent. Ah, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui croche, là, dans cet enseignement. Qu'est-ce que c'est? Va-t-on alors lui dire, « Hey, t'en viens voir là, ça joue pas dans ce que tu nous dis. » Oh non, avec beaucoup plus de délicatesse, avec beaucoup plus d'humilité, Ils ont remarqué,
il manquait quelque chose. Eh bien, quand il manque quelque chose, on apporte. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait au point. Viens chez nous. Ils le prirent, donc ils l'amènent à la maison, ils l'invitent, ils ont un contact avec lui.
Ça peut arriver parfois que ça peut être un jeune, ça peut être un moins jeune, qui donne un enseignement. Il y a une lacune, il y a quelque chose qui joue.
Ce qu'il a dit, ça ne passe pas très bien.
Il y a quelque chose qu'il faut quand même redresser. Mais est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que, eh bien, avant de taper sur la tête à celui qui a dit quelque chose, eh bien, on va s'entretenir ensemble. On l'invite, on l'entoure avec affection, avec délicatesse. On lui dit, mais j'aimerais essayer de mieux comprendre ce que tu as dit ou ce que vous avez dit, parce que il m'a semblé qu'il y a quelque chose qui ne jouait pas, mais peut-être est-ce moi qui l'ai pas saisi. Et voilà, on discute, on prend les écritures et on regarde la chose comme a fait Aquilas et Priscilla. Donc, c'est ce premier cheminement, ce premier développement pour cette assemblée à Éphèse a donc passé déjà par deux phases. Une première phase, l'affection, le témoignage paisible mais probant d'un couple uni qui est rendu capable ainsi de témoigner de la valeur de l'Évangile. Et deuxièmement, un témoignage percutant, probant, qui alors, par les Écritures, démontre que Jésus est le Christ et qui fait taire les opposants. Une troisième phase, c'est le chapitre 19e. Nous ne lirons pas tout le chapitre. Je ne lis que quelques versets. Verset 8. Donc c'est de nouveau Paul, l'apôtre Paul, qui est revenu à Éphèse après être allé à Jérusalem, avoir traversé l'Asie mineure. Il revient à Éphèse, verset 8e. Étant entré dans la synagogue, il parla avec hardiesse, discourant pendant 3 mois et les persuadant des choses du royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient, étaient rebelles, disant du mal de la voix devant la multitude, lui, s'étant retiré d'avec eux, sépara les disciples, discourant tous les jours dans l'école de Tyrannus, et cela continua pendant 2 ans. De sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie ouïrent la parole du Seigneur, tant juifs que grecs. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Un peu plus loin, verset 18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient, confessant et déclarant ce qu'ils avaient fait. Plusieurs aussi de ceux qui s'étaient adonnés à des pratiques curieuses apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. Et ils en supputèrent le prix et ils trouvèrent qu'il se montait à 50 000 pièces d'argent. C'est avec une telle puissance que la parole du Seigneur croissait et montrait sa force. Voilà la troisième phase. L'apôtre Paul vient. Son enseignement fondamental, son enseignement qui est la véritable édification, qui il a pu poser les bases de la foi chrétienne, et certainement il aura, pendant ces 2 ans et demi, on verra d'ailleurs au chapitre 20 ce qu'il a fait, mais combien il aura vraiment établi cette vérité chrétienne qu'il donnait à connaître, il a établi sur ses véritables bases, c'est-à-dire la foi au Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, ressuscité et glorifié. Mais voilà, il y a la contestation, il y a le mélange qui ne peut plus être maintenu. On a vu pendant 3 mois, il est encore dans la synagogue. Il y a les Juifs qui sont là, le service régulier dans la synagogue avec, qui sait, peut-être quelques rabbins ou quelques docteurs de la loi qui s'y trouvaient encore, ça n'est pas mentionné, mais on peut bien supposer
que ce culte juif qui s'y rendait encore devenait incompatible avec la vérité de l'Évangile. Alors, au bout de 3 mois, est-ce qu'il est dit, et s'étant retiré d'avec eux, il sépara les disciples, discourant tous les jours dans l'école de Tyrannus. Une nécessaire séparation. L'Évangile amène, c'est-à-dire l'Évangile conduit le serviteur, le principe de l'Évangile, conduit le serviteur à aller dans le monde. C'est là qu'il faut l'apporter. Comme le Père m'a envoyé dans le monde, moi aussi je vous ai envoyé dans le monde. Et là, son service est rendu. Là, pendant le temps nécessaire à la prédication de cet évangile, ça peut n'être que quelques jours, ça peut être plusieurs mois, comme ici pendant 3 mois. Il y a l'œuvre de la grâce qui doit s'opérer. Mais ce n'est pas le lieu dans lequel une assemblée peut se développer. Il faut la séparation morale, cela s'entend, parce qu'il restait quand même dans cette ville d'Éphèse. Et dans cette ville d'Éphèse, l'assemblée qui s'y est trouvée a eu son témoignage dans le monde, mais séparée ecclésiastiquement, peut-on dire, séparée quant au rassemblement. Ce mélange avec la synagogue ne pouvait pas durer toujours. Donc voilà l'œuvre de l'évangéliste qui va dans le monde, qui cherche à rassembler autour de la parole, autour du témoignage de l'évangile et de la personne du Seigneur, par les Écritures. À un moment donné, il doit faire place à l'œuvre du docteur et du pasteur, qui va nourrir les âmes, et pour cela, il faut nécessairement la mise à part. Les deux choses sont liées, mais se succèdent. Donc, c'est cette troisième phase, le ministère de l'apôtre Paul. Cela peut correspondre, disons, au moment de, je dirais, je n'ai pas utilisé ce mot, mais l'exaltation, ou en tout cas, la joie et la puissance de l'Esprit-Saint qui agit. Il y aura des conversions, il y aura des témoignages éloquents qui seront rendus. C'est ce qu'on a vu là. Des miracles même qui se font par les mains de Paul. Mais ce qui est plus intéressant, c'est à partir du verset 18, la confession. Ils venaient confessant et déclarant ce qu'ils avaient dit. Et qu'est-ce que c'est? Le verset 19 nous le laisse entendre. Ils s'étaient adonnés à des pratiques curieuses. C'était de l'occultisme, tout simplement pour utiliser un mot actuel. Et la ville d'Éphèse était caractérisée par l'occultisme. Et ceux qui avaient cru, on rejette. Et qu'est-ce qu'on fait de la bibliothèque de l'occultisme et de tous ces objets peut-être, de tout ce qui était utilisé dans ces pratiques occultes? On les déchire, on les brûle, ça doit disparaître. Eh bien, disons-le en l'appliquant encore aujourd'hui, parce que ce n'est pas seulement de 2000 en arrière, encore aujourd'hui et peut-être aujourd'hui plus que jamais, cette vague d'occultisme déferle sur l'Europe occidentale. Et si quelqu'un peut-être se serait laissé prendre, ne serait-ce peut-être qu'avec les premiers éléments, c'est-à-dire un journal de l'horoscope, permettez-moi de le dire directement, brûlez-le. Il n'y a rien d'autre à faire avec. Il n'y a rien d'autre à faire avec. Tout ce qui touche à l'occultisme ne mérite que le feu, la destruction absolue. Ça ne veut pas dire qu'il faille attribuer une puissance magique à l'objet, non. Mais il faut une détermination absolue de le rejeter entièrement, mais pas en mettant dans un coin qu'on arrivera à s'en débarrasser. C'est en le brûlant, c'est en le détruisant. Ces croyants d'Éphèse nous en donnent un exemple. Et ils ne supputent même le prix pour voir, mais quand même, quelle valeur cela avait-il? 50 000 pièces d'argent. Qu'est-ce que c'est que cette pièce d'argent? Est-ce que ça serait à la valeur de nos francs? passe encore, peut-être bien, même peut-être plus. Eh bien voilà, tout ceci, c'est zéro. Ça ne mérite que le feu. Tout ce qui touche à ce domaine occulte ne mérite que cela. Eh bien voilà, lors de cette troisième phase du développement de ce rassemblement à Éphèse, la puissance de l'Esprit de Dieu agit pour nettoyer, cette assemblée de tout ce qui restait encore du paganisme et de ces choses que l'ennemi infiltrait. Il y a le judaïsme, au verset 8, au 9 plutôt, il y a le judaïsme qui va être rejeté. On sépare les disciples pour se rassembler dans une école, dans une salle toute simple. Et il y a le diabolisme qui est rejeté et il est carrément mis au feu. Mais cette histoire d'Éphèse est très intéressante parce qu'il y a des applications aujourd'hui. Et pas seulement pour une assemblée qui commence un développement, et même pour des assemblées qui existent depuis 150 ans peut-être, ces phases successives, il faut les vivre. Je résume ces trois premières phases. D'abord, le témoignage, je dirais, domestique. Le témoignage de l'individu ou du foyer. Ensuite, le témoignage, je dirais, éloquent, qui doit convaincre par la puissance de la parole de Dieu. Et ensuite, témoignage fondamental par l'enseignement de la parole qui nous fait comprendre la nécessaire séparation morale d'avec tout ce qui est de la religion de l'homme, le judaïsme, qui était devenu religion de l'homme, et l'occultisme, ou tout ce qui est de Satan, ce qui doit être absolument rejeté. Ces trois phases nous montrent donc un développement progressif. La quatrième phase, on la trouve au chapitre 20. Au chapitre 20, verset 17. Or, il envoya, donc c'est de Paul qu'il s'agit, il envoya de Milet à Éphèse et appela auprès de lui les anciens de l'assemblée. Et quand ils furent revenus vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière je me suis conduit envers vous tout le temps, depuis le premier jour que je suis entré en Asie, servant le Seigneur en toute humilité, avec des larmes et des épreuves qui me sont arrivées par les embûches des Juifs. Comment je n'ai rien caché des choses qui étaient profitables, en sorte que je ne vous eusse pas prêché et enseigné publiquement et dans les maisons, insistant et auprès des Juifs et auprès des Grecs sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 25. Et maintenant, voici, moi je sais que vous tous, parmi lesquels j'ai passé, en prêchant le royaume de Dieu, vous ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi je vous prends aujourd'hui à témoin que je suis là-dessus sans de tous, car je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Moi, je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et il s'élèvera d'entre vous-mêmes des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé, nuit et jour, d'avertir chacun de vous avec l'âme. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Ici, l'apôtre prend congé d'Éphèse, mais seulement par l'entremise des anciens de cette assemblée.
Parmi les sept phases qu'on va considérer, c'est donc la quatrième, celle centrale. Et dans ce discours de l'apôtre Paul, il regarde en arrière, rappelle ce cheminement initial, le service qu'il a réalisé, le ministère qu'il a accompli au milieu d'eux, et ce qui en est résulté. Et il regarde au moment voulu, au moment indiqué, en leur disant, voilà ce que Dieu a fait de vous. C'est le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant, pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Voilà votre responsabilité maintenant. L'assemblée de Dieu est comme un troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi surveillant. Pour conduire, non, pour paître, pour nourrir cette assemblée. Vous avez la responsabilité des soins qui doivent être donnés à ce troupeau du Seigneur. Troupeau du Seigneur parmi lequel il y a des brebis faibles, il y a des agneaux, il y a peut-être des brebis malades. Il y en a peut-être qui vont s'égarer, et c'est à vous à les rechercher, à les ramener. Voilà votre responsabilité aujourd'hui. Et il leur fait voir un avenir qui n'est pas très gai. Après mon départ, il arrivera des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Il se lèvera d'entre vous-mêmes des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Perdre courage? Pas du tout. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Dieu donc a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Donc, ayez courage. Si vous regardez en arrière, voilà ce que Dieu a fait pour vous. Si vous regardez en avant, voilà ce que Dieu promet, voilà les ressources qu'il vous donne. Donc, malgré les dangers, malgré le mal qui arrivera, vous avez les ressources pour y parer. Eh bien, nous aussi, dans chaque rassemblement, si nous regardons en arrière ce que le Seigneur a fait pour nous, nous pouvons prendre courage déjà, parce que nous appuyer sur la fidélité du Seigneur, dont on a la preuve par les soins qu'il nous a prodigués jusqu'à ce jour. Et en regardant en avant, prendre courage aussi, le temps qui nous reste, qui est peut-être très court, malgré les dangers qui nous menacent, la parole de la grâce de Dieu est là. Dieu lui-même a promis, c'est lui qui a la puissance d'édifier et de donner un héritage avec tous les sanctifiés. Nous avons ces ressources. Prenons courage et ayons conscience de notre responsabilité à chacun pour aujourd'hui. Bien sûr, ici, il s'agit des anciens. Une responsabilité particulière est accordée et la part de ceux qui, non seulement par l'âge, mais aussi par l'expérience et par la fonction qu'ils remplissent, de ceux qui ont ce rôle d'apporter à d'autres l'enseignement de la parole. Mais chacun a sa part de responsabilité, des plus jeunes aux aînés, les sœurs comme les frères. Chacun a sa part de responsabilité dans le rassemblement. Eh bien, prenons connaissance, prenons conscience de cette responsabilité pour que ce rassemblement réalisé au nom du Seigneur, quelle qu'en soit la faiblesse, puisse être encore maintenu. Ce chapitre 20, dont nous ne faisons que d'effleurer quelque chose, est très important, qui nous montre donc les ressources divines qui nous montre les dangers qui nous menacent, mais aussi qui nous fait connaître l'expérience que nous avons faite de la fidélité du Seigneur. C'est donc le quatrième contact, il était indirect, avec l'Assemblée à Éphèse. Le cinquième, c'est l'Épître aux Éphésiens. Nous n'allons pas la lire tout entière, c'est évident. Je ne fais que de lire deux ou trois versets. Chapitre 4, Éphésiens, début du chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il en est captive, la captivité, il a donné des dons aux hommes. Verset 11, lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. L'Épître aux Éphésiens, dans son entier, développe la vérité chrétienne dans son sommet. Le chapitre premier nous parle des croyants, des saints, donc de ceux qui font partie de cette Église, l'ensemble des croyants où ils se trouvent, comme étant bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Le chapitre 2 nous montre cet ensemble de croyants vivifiés ensemble avec le Christ, ressuscités ensemble et même assis ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. Voilà la position que l'Esprit de Dieu nous fait connaître dans cette épître aux Éphésiens. La position du croyant, même s'il était autrefois sans Dieu dans le monde, ce que nous dit la suite de ce chapitre deuxième. Au chapitre 3, il démontre quelles sont les immenses richesses, même les richesses insondables du Christ. Et ce que Dieu veut montrer même aux anges, c'est-à-dire aux puissances spirituelles, les puissances célestes, il veut leur démontrer sa sagesse dans le salut accordé à ces faibles humains sur la terre qui sont constitués ensemble, une église, une épouse, le corps de Christ, la maison de Dieu. Et alors, le chapitre 4e, dont nous avons lu quelque chose, nous dit, eh bien, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé. Vous avez été appelé à un appel céleste pour être introduit dans la demeure céleste de la maison du Père. Voilà quel est le but vers lequel vous allez. En attendant votre chemin sur la terre, comment va-t-il être? Va-t-il être ainsi en boitillant tout du long ou en vous traînant? Mais marchez d'une manière digne de cet appel, avec joie, avec hardiesse, et surtout en manifestant sur la terre les caractères de celui qui vous attend là-haut. On a vu, d'une manière digne de l'appel, comment? Avec toute humilité. C'était bien un des caractères de notre Sauveur qui nous attend dans le ciel. Avec toute humilité, voilà comment il a marché sur la terre. Avec douceur, cette douceur du Christ, cette douceur et cette débonnaireté du Christ. L'homme humble et débonnaire, n'est-ce pas ce caractère que nous trouvons aussi dans les évangiles? Avec longanimité, cette patience qui va jusqu'à une extrémité qu'on ne peut même pas, jusqu'à toutes les extrémités. Une patience sans limite, et vous supportant l'un l'autre dans l'amour. Si cet amour de Jésus remplit vos cœurs, eh bien les particularités de l'un qui semble un petit peu chicaner l'autre, Mais ces particularités, elles ont leur caractère particulier. Elles ont quelque chose qui donne une saillie à son témoignage, à mon frère, que je n'ai pas. Eh bien, même si je ne comprends pas toutes choses, c'est un support mutuel, moi pour lui et lui pour moi la même chose. Nous supportant l'un l'autre dans l'amour. Et ensuite, nous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit, c'est-à-dire cette unité de pensée, cette unité d'objectif et de partir du même fondement, avoir un enseignement qui rejoint le même but, eh bien, c'est en insistant sur mon point de vue. Non, l'unité de l'esprit par le lien de la paix, en montrant chacun quel est l'objectif vers lequel nous allons. Comme tout converge vers ce point final qui est Jésus et qui part de la même base, l'amour du Seigneur et l'œuvre du Seigneur pour nous. Alors, dans ces versets, je n'insiste pas sur les détails de ce que nous avons lu, mais d'abord, l'apôtre nous dit « Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. » Voilà trois points fondamentaux qui caractérisent les véritables croyants, où qu'ils se trouvent. Il y a un seul corps, il n'y a pas un corps de catholique, un corps de protestant, un corps de baptiste, un corps de... etc. Non, un seul corps qui, les véritables croyants qui appartiennent au Seigneur, qui sont membres de l'Église, non, qui sont membres de Christ. Membres de Christ. Il y a un seul corps. Un seul esprit, voilà la puissance de vie qui les unit, qui les caractérise tous, comme une seule espérance, voilà ce qui est devant nous, voilà le but vers lequel nous allons. Le deuxième cercle, de nouveau trois points, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, c'est une caractéristique aussi des chrétiens, mais qui peut n'être qu'extérieure, qui peut n'être qu'une forme. Oui, le Seigneur, on sait, on est d'accord avec la parole de Dieu, que Jésus, on a récité son credo d'ailleurs, c'est une seule fois aussi, Jésus né de la Vierge Marie, qui a vécu, etc., qui est mort sous Ponce Pilate, etc. On peut réciter son credo avec facilité, et on pense qu'on est tranquille, parce qu'on a été aussi baptisé, et aussi un seul baptême. Ça peut n'être qu'extérieur, qu'une forme. Et puis on croit s'en contenter, pensant que Dieu s'en contentera aussi, et le cœur n'a pas été touché. Ce qui caractérise donc ce verset cinquième, qui est, je dirais, quelque chose d'extérieur, mais c'est aussi la vérité de la parole de Dieu, c'est aussi la vérité de l'Évangile. Mais c'est une vérité qui peut éventuellement être seulement le fait d'une adhésion intellectuelle et qui ne correspond pas à l'état du cœur. Et puis alors, il y a un seul Dieu Père de tous qui comprend l'humanité tout entière. Et ces trois, on a vu ça comme trois cercles concentriques, le cercle intérieur étant celui qui correspond à la vie divine, donc les véritables croyants, le cercle intermédiaire qui correspond à la profession chrétienne et le cercle extérieur qui correspond à l'humanité tout entière. On a dit aussi, du cercle intérieur, on y entre par la nouvelle naissance et on n'en sort jamais, on ne peut pas perdre son salut. Du cercle intermédiaire, on y entre par le baptême, par une profession de foi et il y en a qui en sortent par l'abjuration ou par l'apostasie. Et du cercle extérieur, l'humanité, on y entre par la naissance naturelle et on en sort par la mort naturelle. Mais pour reprendre cette image des trois cercles, prenons conscience que nous appartenons tous, et même avec tel voisin récalcitrant, que nous appartenons tous à l'humanité. Donc, nous avons une responsabilité, comme témoin du Seigneur, envers notre voisin, notre prochain, quel qu'il soit, puisqu'il appartient au Dieu et Père de tous,
en tant que créature, créature de Dieu. Et vis-à-vis de ce certain intermédiaire, on a une responsabilité double, parce que il dit avoir une Bible à la maison, il dit avoir été baptisé, il dit reconnaître quand même quelque chose, la vérité de l'Évangile, mais son cœur n'a pas été touché. On a aussi une responsabilité à leur égard de leur montrer que l'œuvre de Christ, la mort du Seigneur, il est mort pour nos péchés, nous étions des coupables, moi aussi, nous ne méritions que la mort et le jugement, et c'est seulement par la foi au Seigneur Jésus que nous sommes alors introduits dans ce cercle intérieur qui correspond à l'ensemble des rachetés du Seigneur des croyants. Alors, c'est l'Épître aux Éphésiens, donc cinquième occasion où la parole de Dieu est annoncée à Éphèse, nous montre donc la plénitude de bénédiction que nous avons dans le Christ Jésus, que nous avons par la parole de Dieu, par l'Évangile et par l'Esprit Saint. Mais ensuite, il y a des déclins. Hélas, cette assemblée à Éphèse n'est pas restée à ce niveau, à ce sommet. La sixième occasion où l'apôtre Paul parle à cette assemblée à Éphèse, c'est par l'entremise de Timothée. C'est dans la première épître à Timothée, on lira au premier chapitre et au verset 3. De ne pas s'attacher aux fables et aux généalogies interminables qui produisent des disputes plutôt que l'administration de Dieu qui est par la foi. Ça suffit, ces versets nous montrent donc les dangers qui étaient là à Éphèse. Il y avait déjà eu des infiltrations, des personnes qui enseignaient des doctrines étrangères. L'apôtre en avait eu vent, l'Esprit de Dieu l'avait conduit. Et il prie Timothée, son fidèle collaborateur, de rester à Éphèse lors d'un passage qui n'est pas mentionné dans le livre des Actes, où l'apôtre passe à Éphèse et il laisse Timothée. Il y a là des personnes qui enseignent des doctrines étrangères. Il faut que tu leur ordonnes de se taire. Il y a donc une réaction à avoir, une saine réaction pour que la doctrine étrangère, pour que les erreurs doctrinales ne prennent pas pied dans une assemblée. Quelle était cette erreur doctrinale particulière? C'était le légalisme, le judaïsme. Ils enseignaient des doctrines étrangères, s'attachant aux fables, aux généalogies interminables. Et ensuite, il est question de la loi qui n'est bonne que si on en use légitimement, car elle n'est pas pour le juste, mais pour convaincre de péché celui qui est encore dans ses péchés. Donc, dans toutes ces épîtres, il y a plusieurs éléments qui sont mis en avant que Timothée devait régler pendant sa présence à Éphèse. Donc, l'enseignement, premier chapitre. Ensuite, au chapitre 2, le désordre sous certains aspects. Au chapitre 3e, alors, il fallait, pour remédier à ce désordre, il fallait établir une autorité, c'est les anciens, et il fallait se conduire d'une manière juste, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Cette assemblée à Éphèse était en quelque sorte un échantillon de la maison de Dieu, qui est colonne et soutien de la vérité. Donc, on ne peut pas s'y conduire n'importe comment. Dans une assemblée, on ne peut pas se conduire n'importe comment. Il y a un ordre, il y a des choses dont la décence est nécessaire à souligner, et nous devons penser que nous sommes autour de la personne de notre Seigneur, et que ce rassemblement est un échantillon de la maison de Dieu. Il y a donc une façon de s'y conduire. Il ne s'agit pas de choses absolument extérieures, le port d'une cravate ou une veste. Ce n'est pas là la question. Mais une conduite morale qui doit correspondre
à l'autorité et à la gloire, à la dignité de la personne du Seigneur. Dans le chapitre 4, il s'agit de la conduite personnelle de celui qui doit donner l'enseignement. Il s'agit donc de Timothée lui-même, parce qu'il y a de nouveau quelques-uns qui apostasient de la foi. Eh bien, toi, tu dois être l'exemple, te montrant toi-même comme un modèle. C'est dans ce chapitre 4e. Au chapitre 5, il s'agit surtout de la famille, chacun dans sa propre famille, ayant soin de sa propre maison, pour avoir aussi un témoignage éloquent dans sa maison. Et au chapitre 6, les dangers du matérialisme. Il y a ceux qui veulent devenir riches dans le présent siècle, qui tombent dans la tentation, dans un piège, etc. Donc, toutes ces choses, Timothée devait en avoir conscience, et dans cette assemblée à Éphèse, bien les mettre en évidence. Car les dangers étaient là, le glissement commençait à s'amorcer. Attention, reviens. Et la 7e occasion, c'est le chapitre 2 de l'Apocalypse. Les 7 premiers versets que nous lirons à l'ange de l'Assemblée qui est à Éphèse écrit. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais tes œuvres et ton travail, et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, et tu as patience, et tu as supporté des afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, et repens-toi, et fais les premières œuvres, autrement je viens à toi, et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes. Mais tu as ceci, que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles m'ont suggéré, que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit de l'Assemblée. À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà la dernière épître qui s'adresse à cette assemblée à Éphèse. Et en ayant ainsi suivi ces 7 occasions où la parole de Dieu leur est adressée, on a vu donc un progrès et ensuite un déclin. Est-ce qu'alors il nous faut prendre acte, dire bien. On a eu un progrès pendant quelques années et maintenant on ne peut pas progresser toujours. Ça va décliner. Laissons les choses. Non, pas du tout. La parole de Dieu nous dit, souviens-toi que tu es déchu et repens-toi et fais les premières œuvres. La constatation d'un déclin et cette confession que nous devons avoir, l'abandon du premier amour, doit nous amener à nous ressaisir et à revenir à cette ardeur juvénile, pourrait-on dire. Mais qu'est-ce que c'est que l'abandon du premier amour? Qu'est-ce que c'est? J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que c'était son premier amour? Était-ce ses sentiments? Mais non, c'était Jésus lui-même. C'était Jésus lui-même, c'était l'amour de Jésus, c'était le cœur de Jésus. Et lorsqu'il nous est dit à nous, n'as-tu pas aussi un peu abandonné ton premier amour? Eh bien, c'est vers Jésus qu'il faut retrouver les éléments de ce premier amour. Non pas creuser dans notre cœur pour essayer de les découvrir un peu sous la surface. Non, c'est pas là qu'il se trouve, c'est dans le cœur de Jésus. Revenons à lui, avec un cœur ouvert, qui se débarrassera de ce qu'il encombre, parce que il n'est pas resté vide s'il a abandonné quelque chose. Donc, revenons à Jésus, il le remplira à nouveau. Notons aussi que dans cette dernière lettre, adressé à Éphèse, le Seigneur se présente comme celui qui tient les sept étoiles dans sa droite et qui marche au milieu des sept lampes d'or. Il tient les sept étoiles. Oui, il est encore celui qui nous tient. Et nous sommes encore garantis par lui, non pas par notre fidélité. Oh, s'il fallait se baser uniquement sur notre fidélité, on aurait déjà perdu courage à longtemps. Et si nous pensions, si le Seigneur nous disait, eh bien, si tu es assez fidèle demain, eh bien, ça ira mieux. Ça ne marchera pas non plus. Se baser sur la fidélité du Seigneur, c'est lui. C'est lui qui tient les sept étoiles dans sa droite. C'est lui qui marche aussi au milieu des sept lampes d'or. Ayant conscience qu'il marche encore au milieu et qu'il prend connaissance. Je connais tes œuvres. Il prend connaissance de tout. Non pas seulement des œuvres, mais aussi de ce qui les motive. Eh bien, le Seigneur dit avec sa grande bonté, mais tu as des œuvres, certes, tu as du travail, tu as de la patience, et combien de choses positives qui sont mises en évidence. On a tellement de facilité à critiquer en voyant le négatif chez les uns, chez les autres. Prenons garde de cet esprit de critique qui est si facile, mais ayant cette même manière de voir que le Seigneur lui-même, il y a quand même tant de choses positives. Eh bien, cherchons déjà à le souligner. Et voilà encore ce qui manque. Ou voilà ce qui décline. Eh bien, revenez. Tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi. Tu es déchu, tu es tombé de ce premier amour. Tu as perdu le contact. Eh bien, reviens, repens-toi, fais les premières œuvres. C'est vrai que la menace est sévère. Je viens à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu. Mais il dit encore à moi que tu ne te repenses. L'invitation à la repentance, l'invitation pour la restauration, elle est faite par deux fois. Et encore en terminant, mais tu as ceci, que tu aies les œuvres de Nicolas, lesquelles moi aussi j'ai. Il y a donc bien des choses positives que le Seigneur aime à relever pour que ce qui est négatif, ce déclin qui a eu lieu, qu'on se ressaisisse. Eh bien, c'est aussi pour nous. C'est aussi pour nous et pour chacun. Où que nous soyons, à quelque rassemblement que nous nous rattachions, même ceux qui sont isolés, c'est la même chose. À titre individuel, on peut aussi le transpenser. Mon ardeur pour servir, pour suivre le Seigneur, si l'instant soit peu décliné, si je me suis laissé envahir, soit par le matérialisme, soit par quelque autre pensée étrangère, et j'ai perdu le goût de la parole de Dieu, ô Seigneur, restaure mon âme, conduis-moi dans ces verts pâturages comme la brebis, ou plutôt comme David pouvait le dire, se plaçant comme une brebis. Bien, c'est lui qui restaure mon âme en me conduisant dans des sentiers de justice. Ainsi donc, nous avons vu par cet exemple de l'assemblée à Éphèse comment elle a commencé le témoignage d'un couple, comment elle s'est développée la parole de Dieu par Apollos et ensuite le fondement avec la puissance de l'Esprit Saint par l'apôtre Paul, la démonstration de cette puissance, l'abandon total de tout ce qui ferait obstacle à ce développement. Et ensuite, par le chapitre 20, on a vu les dangers qui sont signalés pour qu'on en prenne conscience afin de s'attacher au Seigneur et à ses promesses. Et s'il y a quelques déclins, s'il y a quelques difficultés, eh bien le Seigneur est encore là. Et il nous promet une pleine restauration si nous reconnaissons les causes de notre déclin, de notre faiblesse, et si nous nous attachons à lui humblement, mais avec ferveur, recherchant non pas notre amour initial, mais son amour qui n'a pas changé.